Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui inaugure une semaine consacrée à l'actualité du pirate avec Daniel Heller-Roazen. Le pirate est une figure très ancienne qui hante les mers et les esprits depuis Homère. Mi-rebelle, mi-brigand, Cicéron les qualifiait d'ennemis de tous. Le pirate renvoie donc à une réalité historique qui n'a d'ailleurs pas totalement déserté notre monde, puisque la piraterie maritime continue de sévir dans les mers du Sud, les mers d'Asie, et notamment dans la corne de l'Afrique. Mais le pirate a aussi généré un grand nombre de représentations et de définitions, l'ennemi du genre humain, l'ennemi injuste par exemple, qui montrent qu'il est devenu une véritable catégorie politique qui ne cesse de se recomposer à chaque époque. D'où le projet de cette semaine pendant laquelle nous allons identifier les différentes figures contemporaines du pirate, tellement présentes que l'on pourrait dire que le pirate définit notre époque si incertaine de transition. Nous allons donc nous arrêter successivement sur le rôle des pirates dans la naissance du protestantisme, et puis sur l'entreprise capitaliste, considérée comme une organisation pirate, sur la figure du hacker et des partis pirates aujourd'hui, et nous terminerons par une analyse des films de pirates. Mais pour commencer et poser ce cadre, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Heller-Roazen, à qui je dois cette problématique dans un livre à bien des égards pionnier, intitulé « L'ennemi de tous, le pirate contre les nations », et ça a été publié à la librairie du 21e siècle au Seuil. Bonsoir Daniel Heller-Roazen.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, une figure très ancienne, celle du pirate, oui, que vous remontez alors jusqu'à Homère, mais Homère est un des premiers poètes de notre monde.
Voilà, donc Ulysse lui-même, dans ses voyages, s'est souvent retrouvé face à des gens qui lui ont demandé « Qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes un pirate ?» Et en effet, on a des traces de la piraterie, de la présence des pirates, de la menace des pirates dès les débuts de la littérature ancienne.
Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes un pirate ? Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes quelqu'un avec lequel je peux commercer, avec lequel je peux échanger, ou est-ce que vous êtes un prédateur ?
C'est une bonne question. Je remarquerai d'abord que si on pose la question « est-ce que vous êtes un pirate ?», c'est qu'on arrive à parler avec le pirate.
Donc le pirate... c'est déjà un tour de force.
Oui, c'est-à-dire dans le monde d'Homère, tout le monde parle grec, et le grec homérique. Donc le pirate est un étranger, mais un étranger avec lequel on peut parler. Et la question qui se pose à Ulysse, c'est « vous êtes quel type d'étranger ?» Quel type de xénos ? Êtes-vous un xénos, un étranger amical, ou bien un étranger inimical, voire un pirate ?
Alors, inamical, c'est très important parce que vous faites la distinction entre l'inimicus et l'hostes. C'est-à-dire que c'est une distinction absolument capitale en latin, pour le coup, parce que l'inimicus, c'est celui avec lequel je suis en désaccord et avec lequel je peux d'ailleurs m'opposer et vider querelle par la violence au besoin. Mais c'est très différent de la catégorie de l'hostes qui est un degré plus radical dans l'inimitié, Daniel Heller-Roazen.
Oui, alors les juristes modernes surtout distinguent clairement entre le hostis et l'inimicus en disant que le hostis constitue un ennemi public. Donc c'est un pays, c'est une nation, c'est un souverain, tandis que l'inimicus est un individu. Et cette distinction était connue des auteurs anciens, mais n'a pas été formulée de manière si claire. Mais on peut dire que lorsqu'il s'agit de pirates, la distinction est souvent remise en question.
Et elle est fragilisée parce que le pirate, c'est une troisième catégorie. Il ne répond ni véritablement à celle de l'inimicus, à l'ennemi, à l'adversaire, on dirait en français, ni celle ni à celle de l'ennemi qui est mis en forme dans une armée derrière des frontières et avec lesquelles nous pouvons continuer d'échanger par la violence, mais toujours dans une forme d'échange ritualisé.
Oui, c'est ce qui me semble. Il me semble que le pirate trouble la distinction entre l'adversaire privé et l'ennemi officiel. C'est-à-dire, le pirate remet en question la distinction entre une distinction de quantité entre l'individu et le groupe, et aussi une distinction de qualité entre, c'est-à-dire la distinction entre un rapport qui pourrait être criminel et un rapport de guerre.
Est-ce qu'il ne remet pas aussi en cause la mise en forme de la violence, qui est quelque chose de tout à fait essentiel, c'est-à-dire que la guerre, l'affrontement, la guerre de Troie, c'est un affrontement ritualisé, on pourrait dire mis en forme.
Oui.
On a des armées, on a un chef, on a des fantassins, on a un pacte possible, on a un traité de paix possible, on a un respect d'ailleurs réciproque qui s'exprime de manière très surprenante et violente, mais qui est néanmoins un sentiment à l'égard d'un égal, à l'égard de quelqu'un qui s'engage dans les mêmes formes. C'est pas du tout le cas du pirate, Daniel Hellerhausen.
Oui, c'est vrai, c'est par ailleurs la raison pour laquelle cette question « Êtes-vous un pirate ?» se pose dans l'Odyssée et pas dans l'Iliade. Puisque c'est dans l'Odyssée qu'on a quitté la guerre. Oui. Ulysse, il est en train de rentrer à Ithaque. Et il rencontre des gens, en fait, de toutes sortes d'êtres humains et non humains, des monstres, les cyclopes, des gens qui habitent dans les parties les plus lointaines de la Terre. Et c'est ces gens-là qui lui posent la question, qui êtes-vous? Êtes-vous un pirate? À Troie, la question n'est pas pertinente.
Est-ce que c'est pas très significatif de notre époque, Daniel Hellerhausen, où à l'Iliade succède toujours une Odyssée, à cette guerre en forme, à cette guerre westphalienne, à cette guerre dans laquelle on s'affrontait au terme d'un ius publicum europeum, comme dirait Carl Schmitt, et bien succéder quelque chose de beaucoup plus informe, qui est cet affrontement avec des ennemis qui changent tout le temps, qui ont des visages différents, parfois celui de la séduction, de la prédation. Est-ce qu'il n'y a pas une temporalité dans ces deux grands récits fondateurs?
C'est une question qui revient toujours. Lit-on l'Iliade ou l'Odyssée? Qu'est-ce que ça dit de nous que le fait de sentir l'actualité de l'Odyssée et pas de l'Iliade? Je serais d'accord avec vous. La question, Antoine Carapon, que vous connaissez mieux que moi, est celle du statut de la guerre en forme, du droit de guerre aujourd'hui.
Alors c'est là où il faut faire intervenir un autre grand auteur de l'Antiquité et lequel, la personne de Cicéron. Cicéron, dans les De Officiis, a une citation absolument extraordinaire de la définition du pirate. Et une définition qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, qui est une définition à la fois matérielle et à la fois comportementale. On pourrait dire, pour le droit.
Oui, c'est une définition très frappante et dans un certain sens, le travail que j'ai fait sur les pirates, dans ce livre, L'ennemi de tous, est parti d'une lecture de ce texte de Cicéron. Et c'est un passage de Cicéron, du traité sur les obligations, sur les officiis, où il est question du traitement que l'on doit accorder à un ennemi. Et Cicéron y explique que, avec les ennemis, il faut respecter certaines règles. Et si on a promis quelque chose à un ennemi, il faut absolument le faire, parce que l'ennemi... Il y a des droits qui concernent les ennemis. Même l'ennemi n'est pas un pirate. Et donc, ce que dit Cicéron, et là, je le cite, il dit « Le pirate n'est pas compté au nombre des belligérants, mais c'est l'ennemi commun à tous. » On ne doit avoir de commun ni foi ni serment.
Ni foi ni serment. Ça veut dire que il est parce qu'il est cette troisième catégorie, ni ami ni ennemi, c'est quelqu'un avec lequel on n'est pas lié. On ne peut pas échanger, on ne peut pas faire de commerce. On n'est donc pas lié par des pactes ni des serments. Et on voit à quel point la catégorie juridique est indissociable, ou la non-catégorie juridique plus exactement, est indissociable de la définition du pirate. Le pirate, c'est aussi le sans-droit.
Je serais assez d'accord avec vous, Antoine Carapon, mais j'ajouterais une précision qui est que Cicéron, en fait, il ne dit pas simplement qu'il n'y a pas d'accord avec le pirate. Il dit plus précisément, il ne faudrait pas avoir d'accord avec
le pirate. C'est
normatif. C'est normatif. C'est-à-dire, il ne faut rien promettre au pirate. Donc il y a une sorte d'impératif moral, pas de contrat avec le pirate.
Oui. Pas de contrat avec le pirate, une guerre totale, on pourrait dire. Une guerre totale comme celle que Pompée a livrée aux pirates. Cicéron écrit ça très peu de temps après.
C'est vrai.
À un moment où je crois que c'est Alex Gabinia, on a encore en mémoire, il a encore en mémoire le poison que ça représentait dans la Méditerranée occidentale.
Oui, du point de vue de Rome.
Du point de vue de Rome, bien sûr.
C'est-à-dire, je serais...
Vous avez une sympathie pour les pirates.
Je serais très prudent à l'égard de la question d'identifier les pirates. Mon travail a été un travail critique au sens où je me suis posé la question dans quelles contextes peut-on parler de pirates, d'ennemis de tous. Je ne suis pas du tout parti du constat qu'il y a des pirates ou qu'il y a eu des pirates, ni surtout pas qu'il y avait ni qu'il y a des ennemis de tout le monde. Donc en effet, à Rome, la question des pirates, de ceux qu'on nommait pirates, était une question très importante. Et au long des siècles pendant lesquels Rome a établi sa domination des mers, elle a dû se confronter aux pirates.
Alors si je puis me permettre de faire une petite note d'auteur pour nos auditeurs, vous êtes canadien, vous enseignez aux États-Unis à Princeton, dans le département de littérature comparée, et ce livre a été écrit... après les attentats du 11 septembre. C'est un livre qui est très imprégné par le débat américain qui a suivi les attentats, où on se posait la question précisément, les terroristes ont-ils des droits ?
Exactement. Donc le livre, il est sorti en 2009 en anglais, et je l'ai commencé quelques années auparavant, et pendant la période pendant laquelle je travaillais au livre, Je réfléchissais souvent à cette catégorie très étrange, mais qui avait été évoquée par le gouvernement américain de illegal enemy combatant, c'est-à-dire de combattants illégitimes.
Et donc sans droit.
Et donc sans droit.
Et donc qui justifie Guantanamo et qui justifie le fait, y compris l'affaire Padilla, il y a beaucoup d'autres affaires qui sont tout à fait préoccupantes, voire plus préoccupantes, et qui ne sont pas connues du grand public. Mais cette idée qui s'installe dans les États-Unis post-11 septembre, c'est que, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas de droit parce qu'ils se sont mis eux-mêmes en dehors du droit. C'est ça le raisonnement.
Oui, et c'est dans un certain sens, une reprise de la position de Cicéron. Il y a des gens qui s'exceptent de toute obligation et du cercle du genre humain. Et ce sont les pirates. Donc les pirates, pour moi, c'est une construction en ce sens. C'est une notion, c'est pas une donnée historique. Le pirate tel que je l'ai étudié est une figure du droit, de la philosophie, de la littérature.
Oui, mais avant cela, Daniel Héler-Roazen, il a bien existé dans le sens où il y avait bien des bateaux habités par des gens qui restaient sur mer, d'ailleurs, beaucoup, qui passaient une très grande partie de leur vie sur mer et qui changeaient du coup le rapport à la terre. La terre n'était que des ports où on venait échanger le butin. Ça, ces personnes, elles ont bien existé.
Elles ont bien existé, mais souvent, si on lit les auteurs anciens, on donne le nom de pirate, pas simplement aux individus et aux bateaux, mais aussi à certaines nations qu'on considère comme des nations de voleurs. On trouve cette idée chez Plutarque, chez Xénophon, chez un tas d'auteurs anciens. Les pays qui ne sont pas des hostesses, qui ne méritent pas le nom d'ennemis officiels, peuvent être désigné du nom de pirate.
Et n'ont pas complètement disparu, à en croire la progression de l'idée de rogue states, c'est-à-dire d'état paria. Oui. On les appelle plus pirates, mais dans le fond, c'est un peu la même chose.
Oui, la notion d'état voyou, rogue state, c'est un état qui ne mérite pas le nom d'état et donc dont les dirigeants ne peuvent être des hostesses.
Qu'est-ce que ça veut dire rogue en anglais ?
Rogue, ça veut dire c'est voyou. Je crois.
Alors, racontez-nous l'affaire de Pompée, parce que moi, j'y vois un parallèle possible et extrêmement intéressant, d'ailleurs, avec notre monde contemporain. Pompée, je parle sous votre contrôle, demande les pleins pouvoirs.
Oui.
Demande les pleins pouvoirs pour être capable d'exterminer, de mettre fin aux pirates qui infestent. L'expression est très intéressante. On dit toujours que les pirates infestent la mer avec le monde. cette une métaphore fameuse et d'ailleurs assez funeste. Alors, il demande les pleins pouvoirs qu'il obtient.
Oui.
Selon une loi. Oui. Mais il va en abuser.
Ben, il obtient des pouvoirs pour une période limitée. Mmh. Et donc, la proposition vient d'un tribun qui s'appelle Gabinius. Et au départ, les sénateurs à Rome hésitent beaucoup à accorder un pouvoir exceptionnel à un seul homme pour régler le problème des pirates. Puisque, en fait, la piraterie se pose comme problème. Donc, il faut chercher une solution. Mais à Pompée, on accorde ces pouvoirs exceptionnels, c'est-à-dire les pouvoirs d'un empire majeur, un imperium plus grand que ce qu'on avait reconnu jusqu'à là. Et il a 3 ans pour régler la question des pirates, et il le fait très très vite. Il le fait dans l'espace, semble-t-il, de quelques mois. Donc après 66.
Et il le fait d'ailleurs en utilisant une méthode très intéressante, c'est qu'il va les diviser et pactiser avec eux.
Oui, bah c'est l'hypothèse de plusieurs chercheurs. Alors moi, je ne suis pas historien, ouais. Mais en lisant les chercheurs qui ont travaillé sur ces événements, on constate qu'il y a un désaccord. Selon certains, Pompée, il aurait dominé très vite par les pirates. Eh bien, selon d'autres, et selon des chercheurs plus récents, il aurait plutôt, comme vous le dites, il se serait mis d'accord avec les pirates.
Et puis il a demandé une extension de ses pouvoirs d'exception, on dirait aujourd'hui, ses pouvoirs exceptionnels, une extension sur la côte, en disant je ne peux pas poursuivre les pirates, si vous ne m'autorisez pas, allez sur terre aussi, pour les poursuivre sur terre.
Oui, oui, et là on voit, c'est vrai, et là on constate quelque chose de très intéressant, c'est qu'en Antiquité, on ne distingue pas rigoureusement les pirates qui agissent dans les mers, des bandits et des pirates, pourrait-on dire, qui agissent sur la terre. On avait un même vocabulaire pour les deux. On précisait parfois qu'il s'agissait de pirates maritimes pour dire justement que ce n'était pas là des bandits. Mais on avait une catégorie seule pour les deux.
Et d'ailleurs, à bien vous lire, Daniel Heller-Roazen, on a quand même ce sentiment que même si le pirate a incontestablement une réalité commerciale, une réalité économique, une réalité physique par ses bateaux, c'est quand même le droit qui confère in fine l'identité du pirate.
Oui, je pense que c'est vrai. Le pirate tel que moi je l'ai reconstitué constitue une figure juridique. C'est une figure qui est à la croisée des catégories politiques et criminelles, de la distinction entre l'ennemi et l'adversaire. Et c'est dans des textes de droit et de philosophie de droit que le pirate acquiert une figure claire.
Alors je ne sais pas si je sollicite votre texte ou l'histoire pour y voir absolument un patron pour comprendre notre contemporain, mais cette affaire de la Lex Gabinia, cette affaire des pleins pouvoirs accordés à Pompée participe à la chute de la République romaine et à la naissance de l'Empire.
C'est une hypothèse qui a été soutenue par plusieurs chercheurs. Du moment où on a accordé ces pleins pouvoirs à Pompée, il a été possible d'envisager une monarchie. Et donc, il y a une sorte d'annonce du règne d'Auguste, donc dans les pouvoirs exceptionnels qu'on a accordés à Pompée.
Alors, c'est extrêmement intéressant pour nous autres aujourd'hui, parce que nous sommes dans une configuration qui est totalement différente, mais dans laquelle on peut dire nous sommes tentés par l'intégration, d'abord par le fait de voter pas les pleins pouvoirs, mais des pouvoirs particuliers au nom de la lutte antiterroriste, au nom de la lutte contre ces personnes qui se déplacent dans notre territoire comme des pirates incognito, comme des sous-marins en terre ferme, dirait Carl Schmitt. Et donc ils sortent eux-mêmes du droit et nous demandons les pleins pouvoirs. Et l'histoire romaine pourrait peut-être nous inspirer, Daniel Heller-Roazen, nous inspirer pour montrer que elle a contribué, cette loi d'exception pour chasser les pirates, elle a contribué quand même à la chute de la République romaine. Et c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir.
Absolument. Je crois qu'il serait intéressant d'étudier ce cas de la Lex Gabinia et des pouvoirs qui ont été accordés Pompée en se posant des questions. S'agissait-il d'un état d'exception ou bien d'un état d'urgence? Que faut-il penser du fait de la limitation du temps qui a été présent dès le début? Et en effet, dans quelle mesure la la politique ou la pratique qu'on a menée contre les pirates a-t-elle annoncé une politique impériale au sens fort du mot ?
C'est cela. Alors on pourrait faire aussi un lien qui comment dirais-je qui est abusif comme toutes les comparaisons, mais qui serait avec les barbaresques toujours en Méditerranée occidentale, qui était une véritable plaie parce que ces bateaux qui étaient armés essentiellement à Alger au Maghreb venaient piller, et c'est ce qui a justifié, ça a été le motif invoqué par la France, voilà, la monarchie française, pour envahir l'Algérie, pour mettre fin et libérer les mers.
Oui, merci Antoine Garapon de mentionner les barbaresques. C'est un exemple important d'où on voit encore une fois que les pirates, le nom de pirate ne va pas de soi. Dans le cas des barbaresques, on identifiait des cités ou bien des pays de pirates. Et donc
de rogue state.
Exactement. Donc dans le cas des barbaresques, il était question de cités, donc d'administrations qui étaient désignées dans leur ensemble comme étant des communautés de pirates. Donc les pirates, ce n'est pas forcément des individus, ça peut être des communautés. Et ça peut être des communautés qui possèdent une administration propre. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut être prudent avec l'application du nom de pirate.
Bien sûr, et avec cette idée, avec ce fait aussi que prétexter que l'autre sort des règles, fait la guerre sans les règles, incite à faire soi-même une règle sans les règles, soi-même, nous, démocratie, nous, République romaine. Et cela peut être le chemin de la décadence.
Oui, je pense que ça c'est un point crucial dans l'argumentation qui était la mienne. Si on part du raisonnement de Cicéron, pas de contrat avec le pirate, cela veut dire quelque chose de très simple, ça veut dire contre un pirate, il faut agir en pirate. Donc il faut agir sans respecter les règles. Et donc c'est extrêmement périlleux. C'est érigé en impératif, l'impératif d'abandonner tous les principes de la morale.
Ni les fois sans respecter, ni la foi, ni les serments, y compris les serments qu'on s'est fait à soi-même.
C'est tout à fait possible.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Daniel Heller-Roazen, qui a choisi de nous faire entendre cette terre de Stefano Scodanibio qui s'appelle Oltraquidanza. Oltraquidanza, Daniel Heller-Roazen.
Oui, alors Oltraquidanza, c'est un nom italien forgé, si je ne me trompe, par Stefano Scodanibio sur la base d'un mot occitan. Ultraquidanza, qui correspond tout à fait au mot français outrecuidance, oui. Et donc qui dérive d'un mot latin qui désigne le fait de penser au-delà, ultra cogitare. Oui. Donc le titre de cet album m'est venu à l'esprit d'abord parce que j'éprouve toujours du plaisir à écouter Scodanibio, oui. mais aussi par le sens d'outrecuidance qui me semble résonner avec l'attitude du pirate, mais aussi parce que dans ce nom, dans ce verbe ultra cogitare, penser au-delà, on retrouve le choc qui est celui du pirate qui se heurte aux limites ou qui franchit un seuil.
C'est ça. Et peut-être aussi le travail de l'intellectuel dont la tâche est de bouger les règles, de bouger les lignes, comme on dit aujourd'hui, et de penser lui aussi au-delà des catégories et de ne pas céder à cette dénonciation instinctive du pirate. Il y a quelque chose d'instinctif dans la condamnation de l'autre. Et vous parliez de résonance. La catégorie du pirate, on a beaucoup parlé de l'histoire romaine, de l'Antiquité. En réalité, il ne va cesser de résonner tout au long de notre histoire. Et notamment, ça vous a frappé, Kant accorde une grande place à l'idée, à cette catégorie de l'ennemi injuste.
Exactement. Alors, ça m'a beaucoup frappé. Je ne suis pas le seul. Ça a été remarqué par plusieurs lecteurs de Kant. Kant, lui aussi, dans sa théorie du droit, il stipule les règles qu'il faudrait respecter avec les ennemis. Et puis, il ajoute qu'il existe une figure d'ennemi exceptionnel qu'il appelle l'ennemi injuste. Alors, il ne parle pas de pirate, mais en identifiant un ennemi qui n'est pas comme les autres et qui est en quelque sorte exceptionnel, il rappelle la représentation du pirate comme l'ennemi de tout le monde.
Alors, c'est-à-dire que l'ennemi de tout le monde, celui qui ne joue pas les règles, celui qui ne joue pas dans les règles, celui qui nous menace en sortant de cette relation de réciprocité, fut-elle violente, alors c'est quelque chose qui va prendre une consistance. Si Kant ne parle pas des pirates, c'est que probablement dans l'imaginaire d'un habitant de Königsberg, les pirates n'avaient pas beaucoup de place, peut-être. Mais on va voir que tout au long de l'histoire, et notamment au XXe siècle, on retrouve cette idée de pirate à la fois sous la mer et dans les airs.
Et dans les airs. Oui, c'est, je dirais que le pirate, ce n'est pas simplement une figure qui a habité, qui a traversé les mers, c'est aussi une figure qui a occupé une place structurale dans la théorie de la guerre et dans la théorie des ennemis. Et c'est cette place structurale qu'on retrouve chez Kant. Kant définit l'ennemi injuste comme celui dont la volonté publique déclarée trahit une maxime qui, si elle était érigée en loi universelle, rendrait impossible un état de paix entre les peuples. Donc, l'ennemi injuste, c'est quelqu'un qui parle, qui déclare quelque chose, et ce qu'il déclare trahit une maxime qui ne pourrait pas être universalisée.
Qui n'est pas universalisable, voilà, c'est ça. C'est ça.
En gros, l'ennemi injuste, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les contrats.
Mais alors, on retrouve cette même idée, donc qui ne respecte pas le contrat, je ne respecte pas le contrat à son égard, mais vous avez prononcé le mot d'universalité ou d'universalisable. Oui. Et parce que il y a un emploi qui va être très surprenant, qui moi personnellement ai trouvé très intéressant mais très surprenant, c'est que une qualification, c'était de dire c'est l'ennemi du genre humain, l'ennemi de tous, l'ennemi du genre humain. Oui. Et on a qualifié, et notamment Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem, après donc la Deuxième Guerre mondiale, elle qualifie Eichmann, et d'une manière générale le régime nazi, d'ennemi du genre humain. Elle reprend cette expression, oui, oui. Daniel Heller-Roazen. C'est surprenant. On est sorti du rapport Terre-Mère.
Absolument. Et c'est tout d'autant plus surprenant qu'Eichmann était tout sauf un pirate.
Oui, oui, c'est un homme de serment. Il l'a plaidé
jusqu'à la fin.
Exactement.
Et c'est un homme qui occupait un rôle au sein d'un système administratif.
Alors pourquoi cette référence à une dénomination qui était celle attribuée au pirate?
Ben je crois d'abord il faut commencer par le fait qu'en antiquité on appelle le pirate l'ennemi de tout le monde, l'ennemi de tous. C'est hostis omnium. C'est au Moyen Âge qu'on donne cette glose, ce commentaire. On dit le pirate c'est l'ennemi du genre humain. Et je crois qu'il y a là un pas. C'est-à-dire on passe de l'ennemi de tous, donc d'un ennemi d'une pluralité, à l'ennemi d'une espèce singulière qui est l'espèce humaine. Et c'est là où on commence à théoriser en quelque sorte l'humanité comme un sujet de droit. En fait, comme un sujet de droit dans une perspective qui est chrétienne et qui doit beaucoup à la théologie. À l'époque moderne, on constate un pas de plus. Et plus, et on retrouve l'ennemi du genre humain, et plus exactement le criminel contre l'humanité. Et c'est, il m'a semblé que pendant longtemps, le pirate a été une figure marginale, précisément parce qu'il se définissait vis-à-vis de l'humanité. Et l'humanité n'était pas un sujet politique ni juridique.
Bien sûr.
Mais en modernité, au temps moderne, l'humanité a acquis une importance capitale et pour cette raison même, le pirate, lui aussi, il a acquis une nouvelle actualité.
C'est ça. Parce qu'il y a dans la mesure où, solo, pour vous suivre, toujours Daniel Heller-Roazen, il y a une naissance qui crée de manière coextensive et le droit et la figure de l'ennemi du droit oui. absolu, qui est celui
oui.
du pirate.
Oui.
Lorsque progresse cette idée d'humanité, humanité qui prétend à une existence juridique à travers la Société des Nations pendant tout le XXe siècle, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est reformulé par l'écologie, mais qui reste quand même une préoccupation, on le voit bien, du droit international, eh bien, le pirate, c'est celui qui joue pas le jeu. Toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on crée une catégorie, et là une surcatégorie, eh bien on va créer une figure de celui qui est celui qui empêche cette catégorie.
Oui, je dirais que le pirate, c'est celui qui pointe la limite de ce qu'on a cru comprendre par universel ou par totalité. Donc ça, c'est très clair chez Cicéron, le pirate, c'est l'ennemi de tous. Mais c'est aussi clair au temps moderne où on admet l'humanité comme sujet juridique et politique. Le pirate, c'est celui qui met en question les limites de l'humanité.
Alors, il y a aussi, dans le pirate, on a beaucoup parlé de cette catégorie, de cette figure, mais il y a quand même des éléments que je trouve personnellement très intéressants, et très intéressants parce que ils vont eux aussi se voir reformulés aujourd'hui. Il y a dans la figure du pirate une opposition sous-jacente entre la terre et la mer. Entre la terre sur laquelle on peut bâtir des empires, on peut construire des cités, sur laquelle les hommes se stabilisent, qui gardent la mémoire aussi d'ailleurs. Hein.
Oui.
Justissima tellus, on dit Virgile, la terre est la plus juste des éléments. Et qui s'oppose à cet élément liquide,
oui, cet élément fluide. Liquide qui n'a pas de mémoire.
Qui n'a pas de mémoire,
dites,
absolument.
Où on ne peut rien tracer,
c'est ça.
On ne peut rien creuser,
voilà.
Et on ne peut rien bâtir.
C'est ça. Mais on peut prendre.
Oui, on peut occuper. Et une des choses qui est très intéressante dans les traitements du pirate, c'est cette idée d'occupation. Donc, le pirate occupe une partie de la surface de la mer.
Mais c'est paradoxal, on n'occupe jamais une surface, Heller-Roazen, on sillonne. C'est-à-dire qu'on couvre de lignes, mais il n'y a pas cette possibilité de la surface. La surface est une notion, d'ailleurs empiriquement, pour la perception éminemment terrienne.
Tout est provisoire sur la surface des mers.
C'est ça, tout est provisoire, et puis c'est la prise de poisson qui est l'équivalent structurel de la prise du butin du bateau qu'on va arraisonner.
Oui, et là on a assisté très récemment à un changement important, je crois, c'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où on considérait comme évident que les poissons étaient une ressource infinie. Et donc, qu'il n'était pas question de donner du droit exclusif à certaines régions des maires à la constatation que, au constat que,
en fait, c'est pas du tout comme ça. Des taux de ressources très finis. Et tout ce qui est sur la mer, c'est intéressant parce que les juristes insistent toujours sur l'idée qu'il y a un lien profond entre la terre et la culpabilité en raison de la possibilité d'une mémoire.
Oui.
C'est-à-dire que on peut être vu, on peut être poursuivi sur Terre, on peut être bloqué, on peut être chassé, et un crime commis sur la mer,
oui.
De manière assez mystérieuse mais réelle, est moins grave qu'un crime commis sur Terre, comme s'il y avait un lien.
C'est une maxime juridique que vous me rappelez, Antoine Garapon, celui qui commet un crime dans les mers est moins coupable est moins coupable que celui qui fait la même chose sur la terre.
Et parce que moi je trouve ça cette phrase profondément signifiante pour éclairer notre rapport à Internet aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire un rapport dans lequel quelque chose qu'on fait en ligne est toujours moins grave que quelque chose qu'on fait sur Terre. Si tant est qu'on puisse faire cette opposition entre le cyberespace qui n'est pas un et la Terre.
Mais je pense qu'on retrouve là un des éléments les plus fascinants dans la théorie du pirate. C'est que le pirate agit toujours dans un milieu ou dans un élément particulier. Et donc pour définir ce qu'est un pirate, il faut définir l'espace qui traverse. Et cet espace n'est pas comme les autres. Et ça me semble la première caractéristique, en quelque sorte, du pirate, c'est quelqu'un qui se situe ailleurs, dans un espace autre. Les mers, ou bien...
Après les airs. L'aéro-satellitaire. Voilà. Donc, il y a encore autre chose. Oui. Et d'ailleurs, on a vu, ça a été un sujet de... C'est un sujet de préoccupation pour le droit international, pour les us et coutumes de la guerre, c'est l'utilisation des airs.
Oui.
L'utilisation de l'aviation.
Oui.
Qui est extrêmement récente.
Hein, oui.
Sous le ciel de Dieu, ça fait un siècle, alors que bon... Et ça va pas de soi. C'est-à-dire que c'est... Là aussi, on sort un peu des règles quand on occupe l'espace aérien.
Je serais tout à fait d'accord avec vous, et de là l'expression qui est maintenant plutôt caduque, je pense, de piraterie aérienne,
tout à fait, oui.
Mais qui était tout à fait courante à un certain moment.
Oui. Tout à fait. Alors, c'est l'idée de détournement, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de surface dans les airs, et pas plus que sur la mer, et pas plus d'ailleurs que sur Internet, il n'y a que des lignes, et une ligne peut être détournée à une surface. Il peut pas être détourné, il peut être occupé, il peut être...
Oui.
Mais et je crois qu'il y a cet imaginaire qui va être très important, qu'est cet imaginaire qu'un monde finalement qui n'est plus qu'un immense filet, croisement de lignes. Là aussi, on a une image très parlante pour nous aujourd'hui.
Oui, on a une image aussi de désorientation.
Oui.
C'est-à-dire que l'espace peut être parcouru de plusieurs manières et sans orient.
Alors, vous concluez votre livre, Daniel Heller-Oasen, sur une notion qui est également centrale aujourd'hui, parce que vous dites, non seulement il y a cet espace tout à fait particulier, cet élément tout à fait particulier, qui est l'élément maritime, liquide, il y a cette exclusion du droit, mais en même temps, le pirate prend des risques. Et cette dimension du risque, elle contribue proprement à le définir. Il prend des risques, et ce qui est rémunéré à travers la prise, eh bien, c'est, sans mauvais jeu de mots, la prise de risque.
Oui, on est même allé jusqu'à dire que dans le nom de pirate en grec, il y a une allusion au risque, ou à la limite, à péras, qui signifie le bord ou la limite. C'est pour ça que j'insiste encore une fois sur le fait que le pirate, c'est quelqu'un qui rencontre des limites, ou se meut vers des bornes. Et en effet, le pirate, je crois, il est actuel aujourd'hui aussi pour cette raison-là. Le problème des pirates, c'est un problème de risque, vu de l'autre. D'autre côté, c'est un problème de sécurité.
Oui. Alors, Le pirate nous parle beaucoup aujourd'hui. On l'aura compris avec cette figure de l'internet, de l'aérien, du maritime, d'un monde fluide, d'un monde déterritorialisé. Parce que on pourrait dire que, je parle sous votre contrôle, encore une fois, Daniel Heller-Roazen, que la terre est riche. Et la terre, c'est le lieu du paysage.
Oui.
Il y a des signes. C'est une terre qui signale toujours sa place dans l'univers, alors que la mer est infinie, c'est une étendue, c'est un espace désémiotisé. Il n'y a pas beaucoup de signes autres que l'élément aquatique. Mmh. Et est-ce que ça ne nous parle pas aujourd'hui, parce que précisément nous sommes travaillés par la déterritorialisation, celle de la mondialisation, celle du numérique, celle même de l'économie. L'économie, Michel Foucault le rappelait, c'est atopique. L'économie, c'est des échanges, mais des échanges qui ne se font plus, qui ne sont plus territorialisés.
Je crois que c'est tout cela, c'est tout à fait possible. Je dirais qu'il y a aussi la question de savoir si l'élément dans lequel se déplaçait le pirate, c'est-à-dire les mers, qui constituait une zone hors droit, c'est quelque chose que nous rencontrons aujourd'hui ou pas. Parce que je crois on pourrait raisonner de deux manières. On pourrait dire soit ça n'existe plus pendant un certain temps. Dès qu'on quittait la cité, on était nulle part dans une zone de non-droit. Et progressivement, la terre a été soumise à une un droit. Mais on pourrait aussi dire qu'aujourd'hui, on voit réapparaître par la voie de la mondialisation des nouvelles zones de non-droit.
Oui, c'est cela. Alors, finalement, l'erreur des juristes, depuis très longtemps, depuis Cicéron peut-être, ça a été de penser le droit, un droit qui ne s'appliquerait que sur la terre. Or, en réalité, il n'y a pas que de la terre, il n'y a pas que de la mer non plus, mais il y a une coexistence de deux éléments hétérogènes et deux éléments qui, par leur nature même, de manière élémentaire au sens physique du terme, inspirent des régulations, des manières d'habiter très différentes.
Oui, je crois que une des grandes questions, c'est le pirate habite-t-il quelque part ? Quelle est l'habitation propre au pirate ? L'existence du pirate est-elle une existence qui ne rend peut-être pas possible l'habitation?
Alors, j'ai été très frappé dans le discours de George W. Bush. Il a dit dans un fameux discours après le 11 septembre, je veux les prendre, les ramener à terre. Et en anglais, il a dit « to harbor them ».
Oui, oui.
Ce que je trouve extrêmement intéressant. Je veux les ramener au port.
Oui, c'est ce qu'il a dit, je crois, c'était qu'il fallait faire la guerre aux États voyous, en fait, aux ennemis combattants illégaux et à ceux qui leur propose des havres, donc à
c'est
ceux
ça. Qui les abritent, c'est ça. Mais alors, ça sera ma dernière question, parce que malheureusement, le temps s'épuise, mais comment est-ce qu'on peut ramener les pirates sur Terre, Daniel Heller-Roazen ? Est-ce que finalement, l'enjeu aujourd'hui, on a peu parlé du terrorisme, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de refaire une terre habitable pour tous, là où nous habitons, et donc de penser le retour au port.
La question de comment ramener les pirates, Antoine Garapon, je la laisserai aux administrateurs, peut-être aux juristes.
Vous vous mouillez pas sans mauvais jeu de mots.
Je dirais plutôt que le pirate pose une question. Qui sommes-nous ? De quoi parle-t-on quand on parle de tout le monde, du genre humain et de tous ?
Eh bien, je crois que ce sera les réponses que l'on cherchera cette semaine. Merci beaucoup, Daniel Heller-Roazen.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Matière à penser, Daniel Heller-Roazen, Bruno Mourlan, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Nino Lima, Anne-Pascale Desvignes et Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain pour explorer les terres des pirates, les nouvelles terres des pirates, avec Olivier Abel sur le protestantisme.